Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Déclic. Nom masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux. Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Productions et vous écoutez Le Déclic.
Dans l'épisode de cette semaine, on accueille Eva Cajun. Photographe, Eva transporte à travers ses œuvres dans un univers doux, passionnant, dynamique et chaleureux. Un univers complètement à son image. Mais au-delà de cette passion dont elle a choisi de faire son métier, Eva, c'est aussi un esprit profondément libre et une indépendance chevillée au corps. Dans ce numéro du Déclic, elle nous raconte comment elle est sortie des sentiers battus pour dessiner son propre chemin. Bon, comment tu vas, Eva ?
Je vais bien, et toi ?
Bah, ça va très bien, je suis ravie de t'accueillir, et Juliette aussi, même si elle n'est pas là physiquement. Je sais qu'elle est elle-même ravie, puisque je viens de la prévenir, en fait, par message.
Bisous Juliette, on pense fort à toi.
Oui.
Enfin, je parle pour toi, mais je pense fort à toi. Mais je pense que Sophie aussi.
Bien sûr, je ne cesse de penser à elle.
Ah, jour et nuit, c'est beau.
Non, c'est creepy.
Peut-être un peu creepy, oui, ok.
Un petit peu. Alors donc, je disais, on est ravis de te recevoir dans Le Déclic et dans ce nouveau numéro.
Je suis contente d'être là.
Dans Le Déclic, nous on aime bien, avant de parler du déclic, de parler de l'avant-déclic.
Oui.
Toi, comme c'est un déclic qui est arrivé quand t'étais assez jeune.
Ouais, jeune. C'est arrivé il y a 5-6 ans en soi.
Ouais.
5 ans. Donc pas si jeune. J'avais 22 ans.
Trop fort en calcul mental.
J'ai compté sur mes doigts. Je sais pas si t'as vu, j'avais le micro qui faisait... Enfin, ça faisait ça. J'avais 22 ans.
Ouais. Bah, j'aimerais bien revenir avant sur l'enfant que t'étais, l'adolescente que t'étais. T'étais comment ? Est-ce que t'étais du genre à rester dans les rangs ou est-ce que t'étais un esprit libre déjà ?
J'étais une enfant très sage. Je suis fille unique du coup et j'ai pas eu de cousin cousine avant mes 12 ans, donc j'ai eu vraiment une enfance solitaire. Mm-hmm. Mais ça m'a pas pesé, j'ai été plus proche des adultes assez rapidement.
Ouais.
Donc des amis de mes parents qui m'accueillaient à bras ouverts dans le cercle de mes parents, mais j'avais peu d'amis enfants finalement, à part à l'école, mais en dehors non. Donc je jouais beaucoup seule, j'étais vraiment très introvertie et solitaire. Mm-hmm. Et ça m'a jamais pesé, ça a jamais été un problème, je me suis jamais dit que je manquais d'amis. Du coup, j'ai plutôt eu une enfance très heureuse, mais assez seule, mm-hmm. assez solitaire. Et à l'école, je rentrais beaucoup dans les rangs. J'ai été le genre de personne très énervante qui est première de classe jusqu'à tard, sans faire trop d'efforts. À tel point quand je me souviens, en CM2, j'avais un maître, un instituteur, qui était... pas impartial du coup, enfin qui prenait un peu parti des meilleurs élèves et qui, moi je me souviens mentir sur mes contrôles, enfin mettre des mauvaises réponses pour pas avoir de 20 sur 20, enfin de 10 sur 10 d'ailleurs à l'époque, c'était plutôt des 10 sur 10 parce que si j'avais des bonnes notes, il m'encensait un peu devant la classe et je me faisais un peu des ennemis. Donc je boycottais vraiment mes contrôles pour avoir genre 8, tu vois, pour être toujours bon élève mais pas très bon élève. Après, au collège, ça a été un peu compliqué parce que j'avais des amis, mais j'avais un look un peu clairement gothique. j'avais les cheveux teints en noir. Je me suis teint les cheveux en noir très, très jeune, à 12 ou 13 ans. Je m'habillais très sombre. Bon, j'écoutais Marilyn Manson. J'avoue, j'ai un peu écouté Tokyo Hotel, mais voilà. J'écoutais beaucoup de métal et ça rentrait pas trop dans les cordes du collège dans lequel j'étais. Et du coup... Bon, j'avais des amis, évidemment, et c'était très cool, mais j'avais aussi... Enfin, je me sentais vraiment un peu à part, mais sans me sentir trop outsider ou quoi que ce soit. Hein. Je me suis jamais sentie spéciale, je me suis jamais sentie différente non plus sur un point de vue psychique ou intelligent du tout. Je sentais juste que, je m'habillais pas de la même façon, j'écoutais pas la même musique et...
Mais tu crois vraiment que c'était la seule source de décalage, ça, la musique et le style ?
Non, peut-être pas, il y avait peut-être d'autres... De décalage, peut-être que je commençais déjà un peu à pas trop trouver ma voie, à me dire que je suivais pas le chemin tout à fait normal. J'avais des amis qui savaient déjà ce qu'ils voulaient faire plus tard. Bon, en soi, en gros, j'ai 27 ans et je sais, mais je suis pas non plus sûre. Enfin, il y a des gens qui trouvent leur voix très jeune et qui s'y tiennent et qui arrivent et c'est génial. Et je pense qu'on est de plus en plus dans notre génération à devoir errer un peu et à toucher des choses à droite à gauche pour comprendre un peu qui on est. Mmh. Parce que c'est une société super compliquée là, où c'est dur de se faire sa place, c'est dur de s'affirmer, même si c'est de mieux en mieux, je pense, quand même, j'espère. Mais ouais, moi je sais que je ne savais pas du tout, quand on me demandait dès l'école primaire ce que je voulais faire plus tard, je ne savais pas du tout. Il y a tellement d'options, de voies, et j'avais tellement l'impression de ne pas me connaître du tout,
ouais,
que je me disais que je trouverais ce que j'ai envie de faire tard, vraiment tard, parce que j'avais pas envie de me lancer dans des choses qui me correspondent pas et qui sont pas du tout moi. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'ai l'impression que je voulais rester fidèle à moi-même et que je me connaissais pas assez pour me permettre de trouver un métier qui est fidèle à ce que je veux.
Ouais, ton objectif, ça a jamais été de te faire 40K par an?
Non, vraiment pas. J'ai jamais eu de prétention salariale. Je me suis jamais dit que je voulais me faire plein de thunes et m'acheter des yachts, quoi. Vraiment. Ça m'a jamais trop traversé l'esprit.
En même temps, moi, je suis en recherche d'amis qui ont des yachts et des piscines, donc n'hésite pas. Hein.
Bah, je suis désolée, je suis mal barrée. Hein,
pas toi.
C'est pas le meilleur plan que t'aies trouvé. Désolée.
Ouais, donc le rêve, mettons, si je t'avais tendu un micro quand t'étais petite et ado, enfin, ado, et que je t'avais dit, c'est quoi ton rêve de quand tu seras grande? Ton mode de vie idéal ou ta vie idéale?
J'avais énormément de mal à me projeter, et toujours maintenant, j'arrive pas du tout à me projeter à quand je... Même dans 5 ans, c'est dur de me projeter, je sais toujours pas si je veux des enfants, je sais toujours pas où j'ai envie de vivre... Je commence à me connaître un peu plus et à me dire que ok, plus tard je veux pas vivre en ville, je veux pas vivre, enfin je veux de la campagne et de la nature, mais je suis même pas sûre de moi, je change vraiment d'avis facilement et c'est pas grave. En fait, ce qui a été bien, c'est d'accepter que c'est pas grave de pas savoir ce qu'on veut,
ouais,
et que c'est pas, voilà, il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent dès qu'ils sont petits, ils savent qu'ils veulent des enfants, qu'ils veulent une maison, qu'ils veulent, enfin, et que c'est très bien. Et il y a des gens qui savent pas et qui ont besoin de
mais à la limite, c'est peut-être eux qui ont raison, parce qu'il y a moins de chances d'être déçu quand tu sais pas ce que tu veux que quand tu sais ce que tu veux, si ça se réalise pas.
Oui, c'est clair. Après, moi, j'ai toujours peur de me dire que si je sais ce que je veux jeune et que je l'ai jeune, bah, et après, enfin, c'est, je sais pas, est-ce qu'il y a pas un risque, 10 ans plus tard, de se dire, bah zut alors, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant, tu vois? Alors que si t'es en quête perpétuelle, bon, bah voilà, il y a toujours des bonnes surprises en soi. Mais je sais pas, ouais, est-ce que jeune, je t'aurais dit, ah bah je sais que je veux aller à tel concert 3 mois plus tard et je sais que bon, bah ce serait cool que j'ai mon bac, mais à part ça, aucune idée de ce que je voulais faire. Mais je savais, je pense que je savais, pas clairement, mais avec le recul, je pense qu'au fond de moi, c'était clair, que je voulais pas de stabilité, que je voulais pas de vie stable. Et que je voulais pas du tout trouver quelqu'un jeune et me poser jeune.
Ouais.
J'avais besoin d'explorer au maximum plein de choses avant de... Et voilà, et là je suis à un quart de mon exploration, même pas un huitième de mon exploration. Mais ouais, pas la stabilité me faisait déjà très très peur à l'époque.
D'accord. Et donc maintenant, tu es photographe.
Oui.
Est-ce qu'il y a eu des prémices à ce métier que tu exerces aujourd'hui?
Oui, c'est une histoire un peu rigolote, parce que je suis arrivée en seconde. Donc le collège, ça a été un petit peu dur, du coup j'étais un peu solitaire, même si j'avais des potes. Et le lycée, c'était l'ouverture, vraiment, il y avait plein de gens différents de moi et qui me ressemblaient un peu plus. C'était un collège, on n'était pas beaucoup, et le lycée, on était beaucoup pour le coup, et il y avait vraiment tous les looks, il y avait, enfin c'était vraiment, je me sentais beaucoup mieux. Et je me souviens le premier jour de mon arrivée en seconde, ils me disent « Waouh, mais voilà, il y a plein de gens, il y a plein de beaux gosses, il y a plein de belles meufs, c'est génial !» Et tomber et voir ce mec au fond de la cour, donc il était en terminale à ce moment-là. Et je me souviens de la chemise qu'il portait, chemise verte qu'il portait, et il était extrêmement beau. Enfin moi, il m'a énormément touchée physiquement. Et j'ai eu un crush, un flash dessus vraiment, directement. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et alors à l'époque, il y avait MSN et les Skyblog.
Wow.
Et un photomaton du lycée, donc j'ai pu trouver son nom.
Il y avait un
photomaton, en fait, et dans le couloir, il y avait toutes les têtes de tous les élèves avec leur nom en dessous.
Wow, ok.
Très pratique quand tu voulais stalker.
Très pratique, mais un peu angoissant, parce que je me souviens de ma gueule sur le photomaton que j'avais donné au lycée, c'était un carnage.
Ouais, pareil, je devais avoir les cheveux rouges et beaucoup, beaucoup trop de maquillage.
Moi, j'avais un œil fermé et un autre ouvert.
Oh, merde. Dommage. Mais du coup, c'était cool, parce que tu remarques, enfin, c'était cool, oui et non, parce que tu remarques un peu les gens et tu pouvais aller voir leur nom. Et j'avais trouvé son nom, j'avais trouvé son Skyblog. Et en fait, il est photographe. Et du coup, il faisait des photos, il voyageait beaucoup.
Il était déjà photographe en terminale ?
Ouais, il faisait des très très belles photos. Il s'appelle Alexis, je ne cacherai pas son nom. Et il faisait des très belles photos et il voyageait. Donc, il est toujours finlandais. Et il voyageait beaucoup en Finlande et il faisait beaucoup de photos très sauvages de grandes étendues, de très beaux endroits. Enfin, c'était vraiment... Mm-hmm. Ça m'a marqué en termes de photos. Et honnêtement, je me suis mise à la photo et parce que je ressentais quelque chose en regardant ses photos et parce que j'avais envie de le connaître et d'avoir un sujet commun avec lui.
Donc... Et parce que tu y ressentais quelque chose en le regardant.
Oui, exactement. Quand je voyais au bout du couloir, j'étais un peu palpitante et tout ça. Et du coup, je me suis mise à la photo essentiellement pour... Enfin, grâce à lui, en fait. Il le sait, on en a reparlé après. Et il a eu un gros impact sur ma vie de photographe.
Et donc, cette rencontre avec Alexis, si mes souvenirs sont bons, c'est ça qui t'a amené à ton déclic.
Oui, exactement, parce que du coup, c'est quelqu'un de qui j'ai été pas si proche que ça pendant le lycée, où on s'est croisés à des soirées, on s'est un peu parlé, tout ça, et on s'est perdu de vue. Mais j'ai fait beaucoup de photos pendant le lycée, et j'ai intégré après un BTS photo qui était à Roubaix. Et j'ai fait 2 ans de BTS photo qui, honnêtement, désolée, mais m'ont pas servi. Et m'ont même plus démotivée de la photo qu'autre chose.
Pourquoi ?
Parce que c'était des cours très techniques avec des profs que je trouvais pas si motivants. Si certains m'écoutent, j'en suis navrée. Mais vraiment pas si motivants et même décourageants. Alors, il y avait des choses très bien où tu apprenais à faire de l'argentique et tu touchais à un aspect technique intéressant. Mais il y avait vraiment un côté vraiment très décourageant. Et moi, quand je suis sortie... Un BTS, c'est censé te former à travailler directement après. C'est 2 ans d'études où tu es censé travailler après. Et moi, je suis sortie de là avec mon diplôme en me disant « Mais je ne suis pas du tout assez mature pour travailler. Je ne suis pas assez prête du tout. » Et j'ai plus envie de faire de photos. Vraiment, je me suis dit « La photo, c'est bon. J'en ai fait 2 ans et c'était pas cool. Donc, j'arrête. » Et du coup, j'ai fait 3 ans de master à Toulouse. Je suis partie vivre à Toulouse toute seule. C'était génial. C'était des super bonnes années. Et j'ai repris et j'avais plus de numérique, d'appareil photo numérique.
Ouais.
Et du coup, j'ai récupéré l'argentique de mon beau-père et j'en faisais à droite, à gauche, vraiment parce que je voulais plus en faire. Mais c'était quand même au fond de moi, je crois. Et après l'écœurement du BTS, c'est revenu naturellement. Je faisais des photos argentiques avec 2 copines qui en faisaient aussi. Et c'est revenu naturellement et je me suis très vite rendu compte que c'était quelque chose qui me passionnait tellement et qui me faisait me sentir tellement bien de faire des photos que je pouvais pas lutter contre. Et du coup, je me suis racheté un numérique d'occasion. Et là, j'en ai refait vraiment sérieusement.
Donc, en gros, le problème pour toi, ça a été quand la photo est devenue scolaire.
Ouais. Ah ouais. Ça m'a... Et qu'il fallait... Il y avait des contraintes pour faire de la photo, qu'il fallait rendre des devoirs à telle heure. Enfin, je me sentais pas du tout... J'arrivais pas à m'approprier les sujets.
Je comprends.
Et à mettre ma patte dedans, en fait. C'était... Il y avait tout. Il y avait du studio. Il y avait plein de choses. En plus, c'était des horaires assez crevantes parce qu'on faisait 8h, 19h à 1h de route de Lille. Donc, t'as peu de temps à côté, finalement, pour bosser. Et vraiment, moi, le côté scolaire m'a découragée complètement. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'étais très scolaire avant. Vraiment, jusqu'au lycée, jusqu'au bac, j'étais très scolaire. C'était très agréable pour moi de marcher dans un chemin déjà dessiné où il fallait avoir son bac de toute façon. Alors, ce qui est maintenant n'est pas du tout quelque chose qui est utile à la vie, je pense. Enfin, les études, je ne considère pas ça comme quelque chose de très utile finalement. Mais quand tu es au lycée et qu'on dit qu'il te faut ton bac, tu passes ton bac et tu ne te poses pas trop de questions. Et c'était cool d'avoir chaque jour... fallait écouter les cours, fallait réviser et j'avais pas de décision à prendre. En fait, je suis très mauvaise pour prendre des décisions, surtout quand ça me concerne personnellement, je sais pas les prendre. Et du coup, jusqu'au bac, ton chemin il est à peu près dessiné, tu choisis si tu fais L, ES ou S à l'époque, mais à part ça, t'as pas de choix à faire, quoi. Donc c'est cool, c'est tranquille et voilà, t'as juste à bien apprendre tes tables de multiplication et tout ça. Enfin, moi, le côté scolaire me rassurait énormément.
Okay.
Et à partir du moment où j'en suis sortie, je me suis dit qu'il fallait que je fasse mes propres choix, que je prenne mes décisions et je me sentais pas du tout apte à le faire. Je me connaissais pas, je savais pas quoi faire. Enfin, j'étais vraiment, vraiment perdue. Et le côté scolaire de la photo m'a perdue complètement. Vraiment, chiant quoi. Enfin, je me sentais pas du tout encouragée. Enfin, c'était pas une très bonne expérience ce BTS. Vraiment.
Donc, t'es en master, c'est ça ? Je reprends le fil. Ouais, t'es en master, tu te remets à la photo.
Naturellement.
Naturellement.
Ouais. Et du coup, je bossais à côté dans un magasin qui s'appelle Lush et j'étais perdue et j'ai eu mon master un peu en galérant. Et vraiment, à la fin de mon master, j'étais perdue. Mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Enfin, je sais pas ce que je veux faire. je veux pas trouver de boulot, j'ai pas envie de travailler parce que je me sens pas assez mature, je suis perdue, enfin perdue dans la société. Mmh. Et vraiment, et j'avais des potes à côté qui arrivaient à bosser, qui étaient embauchés après leur stage, qui trouvaient leur voie, enfin qui au moins trouvaient leur voie pour un an ou deux.
Ouais.
Et moi, j'étais perdue, à pas savoir qui je voulais être, où je voulais être, mais vraiment... Et un peu en détresse, tu vois, pas en « Ah, c'est trop cool, j'ai plusieurs pistes à explorer », vraiment en détresse et en comparaison, à me dire « Je sais pas ce que j'ai envie de faire comme métier, je ne sais pas ». Et c'est marrant, c'est que là, j'ai eu mon déclic, un peu.
Ok.
Et donc, c'est toujours le même Alexis, avec qui j'avais été très très peu en contact pendant toutes ces années, vraiment très peu.
Depuis le lycée, quasiment plus rien, quoi.
Non, quasiment plus rien. On s'était vus à des soirées quand je remontais à Lille, à des potes en commun. Vraiment, ouais, on s'était croisés, mais vraiment peu. Et en fait, il m'a proposé, un peu sorti nulle part, je sais plus trop comment ça s'est passé, ou c'est moi qui ai un peu insisté. Il vivait en camion à ce moment-là, parce ouais. que lui aussi, bah, c'est quelqu'un de très marginal qui veut sortir du système quand même et qui est très, très ouvert, qui est très engagé dans certaines démarches psychologiques et qui est un personnage. Et je sais pas, donc je devais avoir du coup 22, oui. Et je sais plus trop comment ça s'est fait, mais en gros, il est descendu à Toulouse en camion et on est partis 3 jours ensemble en camion dans les Pyrénées. Et alors moi, c'était génial, parce que déjà, j'étais avec un crush de lycée avec qui j'avais peu parlé. Tu vois, je comprenais pas ce que je foutais là. J'étais genre, mais qu'est-ce que je fais là? Et en fait, ça a été 3 jours qui ont été très, très violents, parce qu'on a beaucoup discuté, on a beaucoup bu, on a beaucoup roulé, on était dans les montagnes, tout ça. Et en fait, il m'a mis en face de choses. Lui, il avait une avancée vraiment sur beaucoup de choses que moi, j'avais pas du tout. Enfin, j'étais pas prête du tout à voir. Et il m'a mis en face de choses qui ont été un peu des révélations et un peu violentes pour moi. Et j'ai un peu des trous sur ce qui s'est passé. Je sais que je suis sortie de là avec un traumatisme positif, tu vois, où je sentais okay. qu'il s'était passé un truc. Enfin, qu'il y avait des discussions
c'était
vraiment violentes.
C'était un week-end pivot,
quoi. Ouais, ça a été pivot. Ces 3 jours ont été vraiment pivots. Il m'a entre autres dit de lire un bouquin de Eckhart Tolle qui s'appelle Le pouvoir du moment présent, que mon papa m'avait offert quelques années avant et que j'avais pas du tout réussi à lire. Vraiment pas.
C'est quoi ce livre ?
Alors du coup, je suis pas du tout développement personnel, je déteste ça, j'ai essayé de lire un peu de Laurent Gounelle et de Paulo Coelho et je déteste ça. Et Eckhart Tolle, du coup, qui a écrit Le pouvoir du moment présent, il a un nom bizarre, hein, ça fait un peu Eckhart Tolle, mais non, il s'appelle Eckhart Tolle.
Okay.
Voilà, c'est quelqu'un qui a eu une illumination un peu, mais pas du tout théologique, enfin c'est pas du tout lié à Dieu ou quoi que ce soit. Il s'est rendu compte qu'en fait la seule chose que possède l'être humain, c'est le moment présent, c'est que ça sert à rien de se projeter dans le futur, d'angoisser sur le futur ou de vivre dans son passé parce que tu ne le possèdes plus. Mmh. Et que du coup s'ancrer dans le moment présent, c'est très important parce que tu te connectes à toi-même, à ton essence et à ce que t'es vraiment. Et du coup ce bouquin là, c'est un bouquin qui t'apprend à lâcher prise, et ça c'est vraiment très important, à lâcher prise sur sur tout ce à quoi tu te lides mais de manière négative, donc beaucoup à ton ego. En fait, il dit que ton ego, c'est un outil qui peut t'aider dans la vie, mais qui ne doit pas régir tes journées. Donc, il t'apprend vraiment à lâcher prise, à pas te comparer, à pas te comparer, à t'accrocher, à t'ancrer dans ce que t'es maintenant, et à pas avoir peur. Et entre autres, par exemple, sur la peur, il dit quelque chose de très intéressant, c'est que quand t'as très très peur, t'es dans le moment présent à 100%. Genre, si t'es en danger un jour, mais vraiment en danger...
C'est pas cool.
Non, c'est pas cool du tout. Mais ça t'ancre dans le moment présent et tu penses pas à demain ou tu penses pas à hier. Tu vois, t'es vraiment... Il faut que je me sorte de ce danger-là maintenant, tout de suite.
Ouais.
Et il prend aussi des exemples des animaux. Si tu demandes à Guy quelle heure il est, tu vois...
Guy étant mon chat, pour ceux qui...
Oui, Guy étant le chat de Sophie.
Qui est en train de se prélasser à côté de toi.
Guy, elle va me faire quoi, quelle heure il est il est maintenant, quoi, tu vois. Il est juste maintenant. Ça. Et du coup, ouais, c'est un bouquin qui est très... que je conseille vraiment de lire avec un peu de recul parce que ça reste quand même des livres qui sont... il en écrit plusieurs et c'est quand même des bouquins... Il faut, je pense, faire la part des choses et pas prendre tout pour acquis et se jeter à corps et âme dedans. Mais il y a quand même des choses à prendre qui aident vraiment, en fait, à lâcher prise quant à ce que toute la société t'inculque. Tu vois, te dit... et t'empêche de vivre à 100%, je pense, dans le moment présent. Mais en tout cas, les premiers chapitres, enfin la moitié, voire les deux premiers tiers du livre sont vraiment... Enfin, moi, m'ont vraiment aidé à ce moment-là à me décomplexée et à me décrocher de la société en me disant si je suis pas le chemin normal, c'est pas grave. C'est pas ça le but de la vie, c'est pas de suivre ce chemin-là qui est beaucoup suivi. Mm-hmm. C'est de voilà, d'être bien en fait, tu vois, c'est
du coup là où tu étais perdue juste avant.
Ouais, j'étais bien perdue.
Bah là.
Et ben alors après, ce qui a été ce déclic là, donc c'était en juin, je venais de passer mon master et tout et je me suis dit OK, je me connais pas du tout.
Ouais.
Je suis perdue, et ben, je vais essayer de répondre à des questions que je me pose comme je peux maintenant à mon stade. Du coup, ça a été un peu radical. J'étais à Toulouse, j'ai rendu mon appart, j'ai démissionné parce que je bossais à côté de mes études. J'ai démissionné, j'ai vendu beaucoup d'affaires, j'ai mis ce à quoi je tenais chez mes grands-parents. Et je me suis dit, OK, bah, je suis sans appart maintenant et je vais me débrouiller. Et du coup, j'ai eu 3 ans sans appart qui ont été géniaux. Où j'ai clairement vagabondé à droite, à gauche. Donc j'ai été un peu chez mes parents au début. Mais du coup, je suis partie d'abord ouais, 1 mois et demi. J'ai loué une voiture, un berlingot, donc on peut mettre un matelas à l'arrière. Mm-hmm. Et je suis partie 1 mois et demi en France toute seule, donc en conduisant c'est le génial, berlingot. Ça. Ouais, c'était très très cool. Ça a été très très dur au début parce que t'es tout seul tout le temps. Et en voiture, tu rencontres peu de gens finalement. Parce que quand tu voyages en train, en bus, en car, en stop, tu rencontres des gens.
Mais les gens ne se parlent pas forcément en même temps.
Non, mais même rien que le fait d'être dans un bus avec des gens, tu vois, ouais. Ça peut t'apporter ta dose de sociabilité. Moi, j'étais en okay. voiture tout le temps et j'ai été vraiment très seule. Et je me souviens le 3e jour, être en Bretagne, il pleuvait des cordes et mon réchaud ne marchait pas, j'avais pas de gaz. Et donc, je mangeais des haricots blancs, froids, directement à la conserve.
Oh mon Dieu.
Et me dire, oh là 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 là, mais tu vas jamais tenir un mois, vraiment pas. Et puis très vite, la tendance s'inverse et ça a été un mois génial où j'ai découvert plein de coins de France que je ne connaissais pas. Au début, je dormais dans la voiture, les portes se verrouillaient, un peu parano, et à la fin, je dormais les portes ouvertes. Enfin, ça a été vraiment un moment où je me suis dit « Ok, j'aime bien être libre, j'ai besoin d'être libre et de ne pas trop savoir ce que je vais faire le jour d'après. » Mais ça ne marche pas trop dans cette société-là où il faut quand même un peu de stabilité financière. Enfin, c'est un peu compliqué. Et après, je suis partie quelques mois plus tard. J'ai eu 4 mois de gros tâtonnements.
Attends, juste, ouais, pendant ce mois-là, donc t'as, ouais, t'as pas bossé,
Non, j'ai pas bossé.
Y a pas une rencontre qui t'a plus marquée qu'une autre.
Eh ben, pas tant que ça. En fait, j'ai été très seule et c'était très cool parce que.
Est-ce que dans les enseignements que t'as fait sur toi-même, là, y en a eu. Qu'est-ce que tu faisais en fait pour bien te souvenir des trucs que tu apprenais sur toi-même? Est-ce que tu avais un carnet?
Ouais, j'avais un carnet et j'écrivais, alors pas tant ce que j'apprenais, mais comment je me sentais au moment où j'écrivais, où j'étais et ce que je faisais en même temps, dans quelle ville j'étais. Et j'écrivais un peu ce que j'avais fait, c'était un peu un journal de bord. Et j'essayais vraiment, et je lisais beaucoup ce bouquin-là du coup, à ce moment-là. Et je me souviens vraiment, et j'ai envoyé un peu de temps en temps des messages à Alexis qui a vraiment été un guide un peu à ce moment-là, que j'ai peut-être un peu idolâtré, mais qui m'a vraiment, qui m'a vraiment beaucoup. Et je réfléchissais à beaucoup de conversations qu'on a eues qui me revenaient après coup. Entre autres, on s'écarte un peu, mais j'ai toujours eu vachement de mal à être en couple, vraiment beaucoup, beaucoup de mal. C'était une prison pour moi, le couple, clairement, parce que c'est devoir des choses à quelqu'un, c'est devoir écrire des textos ou appeler parce qu'il y a des choses à rendre. Et je voyais ça d'un œil extrêmement négatif. Et Alexis m'a dit vraiment de manière claire, mais tu sais, Eva, il n'y a pas qu'une seule manière de gérer ses relations amoureuses.
Ouais.
Et moi, ça, j'avais jamais pensé à ça. J'étais même un peu jalouse dans mes relations, tout ça. Et du coup, pendant un an ou deux qui ont suivi ça, je vais déconstruire vraiment les relations amoureuses. Et j'ai appris à laisser... Enfin, je suis allée jusqu'au polyamour, quoi. Où vraiment, j'arrivais à voir plusieurs personnes... en même temps, qui voyait plusieurs personnes. Et c'était extrêmement sain et extrêmement agréable.
C'était libérateur, quoi.
Ouais, c'était très, très libérateur de me dire que... De toute façon, il y a plein de schémas, genre il y a plein de vêtements et plein de musique pour correspondre à tout le monde, tu vois, parce qu'il y a plein de genres de musique différents et plein de fringues, ouais, voilà, de nourriture pour que tout le monde y trouve son compte. Mais il n'y a qu'un seul bon schéma de couple, entre guillemets, tu vois. Et moi, ça me semble improbable qu'avec autant d'individus sur une planète... tout le monde arrive à avoir le schéma de couple qu'on nous conseille. Donc de voir qu'une seule personne et d'être fidèle et d'être amoureux d'une seule personne. Ah, c'est ça. Et moi, je me suis jamais retrouvée là-dedans du tout. Et c'est Alexis qui m'a dit, il y a d'autres moyens d'être bien. Et c'est pas de mauvais. Enfin, c'est pas, il y a pas de bon ou de mauvaise situation. Tu vois, enfin, c'est... Et ça a été très cool. J'y ai beaucoup réfléchi cet été-là et l'année qui a suivi. Et j'ai appris à vraiment déconstruire la jalousie. Tu vois, quand j'étais jalouse, je prenais sur moi et je déconstruisais, je décortiquais en fait ma jalousie en me disant, est-ce que j'ai peur que la personne trouve mieux et m'abandonne, et dans ce cas-là qu'elle parte. Mais ça peut arriver en couple.
Enfin, c'est ça, bien sûr.
Tu peux te faire tromper ou que la personne s'en aille du jour au lendemain. Est-ce que c'est un problème d'ego? Parce que j'ai peur que la personne soit meilleure au lit, soit plus belle, soit mieux que moi. Dans ce cas-là, c'est un problème d'ego et ça ne vient que de moi et pas de ma partenaire.
Et en fait, encore moins de l'autre personne potentielle qui est la source de ta jalousie.
Exactement, exactement. Et du coup, j'ai réussi à déconstruire tout ça. Ça a pris un peu de temps, mais ça a été extrêmement libérateur de faire tout ce chemin-là. J'avais envie de le faire. Je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas le faire parce qu'ils sont très bien dans leur couple.
Il y a des gens avec qui ça va, bien sûr.
Voilà, et c'est très très bien. Moi, je savais que je ne m'y retrouvais pas du tout et qu'en plus, sexuellement, j'arrive de connaître plusieurs personnes. J'estime pas que je me connais très très bien sexuellement et que du coup, avoir plusieurs partenaires, c'est bien. C'est bien de creuser avec un ou une partenaire, évidemment, mais c'est bien aussi de... Et puis, tu vois,
c'est bien aussi de creuser tout seul.
C'est bien de creuser tout seul. C'est très important de creuser tout seul. C'est très très important de creuser tout seul. Mais voilà, je me suis très vite rendu compte que j'étais pas du tout faite pour quelque chose de fermé, en tout cas. Enfin, de fermé.
Ouais.
Pas du tout de fermé, mais de couple exclusif. Où tu ne vois qu'une personne et... Après, il y a plein de couples exclusifs qui sont très ouverts et qui sont très épanouis. Moi, je savais que je pouvais pas être bien là-dedans. De base, je l'ai vite su. Je me suis dit, ok, l'exclusivité, c'est pas pour moi.
Mais c'est un pan de connaissance de toi qui est, enfin, ou de soi, enfin, qui est déjà hyper important en fait, ouais. De se rendre compte de ça.
Ouais, c'est clair. C'est assez dur d'arriver jusque-là même, et de te dire, ok, je signe pour de la galère, parce que des gens ouverts, il y en a, et il y en a de plus en plus, enfin ouverts. À chaque fois, je m'exprime mal parce qu'il y a plein de gens.
Des polyamoureux, quoi.
Oui, voilà. Ouverts dans ce sens-là, pas ouverts d'esprit, mais ouverts dans le sens couple ouvert. Quand tu mets un pied dedans, tu te rends compte qu'il y en a beaucoup. Et qu'il y a plein de gens qui ont envie d'essayer, qui sont prêts à essayer et qui n'ont pas forcément les outils, mais qui les cherchent et qui vont aller vers ça de manière assez douce, naturelle et avec beaucoup de respect et d'amour pour eux et leurs partenaires. Et en fait, il y en a pas mal. Mais quand tu es complètement étranger à ça au début, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Enfin, comment je vais m'en sortir? Les gens vont me prendre pour une folle. Enfin, et finalement, ça va. Voilà, je me suis un peu écartée du sujet.
Mais non, pas du tout, parce que ça fait partie de tous les processus d'apprentissage de qui je suis.
Oui, en fait. Exactement. Et c'est tellement dur de te connaître quand on te dit un peu ce que tu dois être quand même, parce que...
Oui, la société veut absolument
qu'on soit... Voilà, te dit un peu ce que tu dois être, que tu dois quand même avoir quelqu'un, être propriétaire le plus tôt possible, avoir un métier. Mais le métier, tu dois être bien dedans, mais tu dois aussi gagner de l'argent. C'est quand même le chemin idéal qu'on t'indique, quoi. Alors que c'est pas du tout le seul chemin. Et c'est juste un peu dur de l'accepter et de te dire, ok, moi je choisis de pas suivre ce chemin-là et c'est pas grave.
C'est ça, il y a des autoroutes et puis il y a des petites départementales et il y a des chemins encore plus chaotiques et sinueux
et plein de surprises. Mais oui,
il peut se passer plein de choses. Quoi.
Exactement, moi je m'ennuie, l'autoroute je m'endors. Hein. Si je conduis sur l'autoroute une heure, je m'endors. Ouais,
c'est déconseillé de s'endormir au volant, Eva. Ouais. Enfin, juste, je te dis ça comme ça, l'air de rien.
Non mais alors qu'une petite route sinueuse, tu t'amuses tout le temps, tu vois, tu dis qu'y aura-t-il après le premier, qu'est-ce qui va se passer après ce virage et celui-là, et celui-là. Mais ouais, du coup ça a été ça. Et puis après j'ai pas mal voyagé du coup. Parce que pareil, j'estimais que je me connaissais pas du tout. J'étais perdue. Je m'aimais pas beaucoup non plus.
Ouais.
Et je savais toujours pas du tout ce que je voulais faire. Mais vraiment pas du tout. Et du coup, je suis partie. Alors j'ai bossé dans un restaurant en montagne pendant 6 mois. Où j'ai économisé comme une petite fourmi chaque centime. Et oui, du coup, je suis partie en voyage 1 an. Mais ça a été extrêmement riche, vraiment. Je suis partie d'abord 6 semaines avec des copains jusqu'en Serbie en voiture. Où je suis tombée très 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 amoureuse d'une des personnes avec qui j'étais. C'était la deuxième fois de ma vie que j'étais très très amoureuse de quelqu'un.
De quelqu'un qui était amoureux / amoureuse en retour ou pas ?
Non, qui était amoureux de quelqu'un d'autre. Sinon trop facile.
Ça en connaît.
Bah oui, donc on connaît bien. Mais pareil, la première fois que je suis tombée très très amoureuse, c'était donc d'une fille qui était en couple. Et moi, c'était la première fois que je tombais amoureuse de quelqu'un et c'était une nana. Et quand tu penses que t'es... ouvert mais hétéro plutôt, c'est un peu ça te perturbe un peu d'être très amoureux d'une femme et ça s'est pas très bien passé. On est devenus très amis après coup, mais ça a été un peu dur. Et deuxième fois du coup pareil, mais je pense que ça c'est du sabotage, tu vois, c'est tomber amoureux de gens qui sont pas disponibles.
C'est ça.
C'est pareil, c'est une forme de je veux pas m'engager, donc je prends pas de risques, je me mouille pas et je tombe amoureux de gens qui seront jamais amoureux de moi parce que bah voilà, il n'y a pas d'engagement et il n'y a pas de contrat à signer, tu vois. C'est du sabotage.
Non, mais écoute, je vais me cacher derrière le canapé.
C'est clairement ça.
Très bien se passer.
Et j'ai mis un peu de temps à m'en remettre, du coup, parce que cette personne était en couple. Et du coup, je suis partie...
Et tu lui as dit ?
Je lui ai dit plusieurs mois après. Je lui ai dit, donc on a passé 6 semaines ensemble en juillet-août. Donc après, le cadre était idyllique, c'est-à-dire qu'on est parti jusqu'en Serbie en voiture. Des plages, des campings, des randos, des maillots de bain. Enfin, le contexte était assez idyllique, je pense que c'était... Et on était tout le temps ensemble. Et vraiment, on s'est très très bien entendus. Il me poussait énormément dans ma créativité, dans mon côté un peu marginal. Enfin marginal, je suis pas du tout marginal, mais le fait que je me sente pas très bien tout le temps à l'aise dans la société, il m'a beaucoup encouragée là-dedans. Et voilà, ça a été c'était très salvateur. Et en fait, enfin salvateur, ça a été très, très douloureux aussi, vu qu'il n'était pas amoureux de moi du tout. En fait, quand je suis rentrée de voyage avec eux, je me suis dit que je ne pouvais pas retourner à Lille dans ma vie normale, parce que j'étais tout le temps, toujours aussi paumée. Ça faisait un an que j'étais paumée et je l'étais tout le temps.
Tu n'avais pas plus de réponses à ce moment-là ?
Pas du tout, du tout. Et non, vraiment pas. Du coup, j'ai pris des billets pour aller au Canada toute seule. Et sur un coup de tête, je vois, j'avais un peu bu, j'ai pris des billets, un aller-retour sur 2 mois. Et du coup, 2 semaines plus tard, je partais au Canada toute seule.
Et là, tu te sens comment?
Alors là...
Parce que t'as quoi, 23, 24 ans?
Ouais, je devais en avoir 25 là, du coup. Ouais,
tu pars à l'autre bout du monde solo, parce qu'en plus tu pars à Vancouver, si mes souvenirs sont bons.
Oui, c'est ça.
Donc,
En fait, j'ai pris des billets où j'atterrissais à Vancouver, et 2 mois plus tard, je repartais de Montréal.
Ok.
Donc j'avais 2 mois pour faire quand même 5000 kilomètres. Donc,
ce qui n'est pas rien.
Voilà, entre Vancouver et Montréal, t'as plus d'espace qu'entre Montréal et Paris. T'as plus de kilomètres. Ouais, donc, c'est quand même une bonne. Et je suis partie quasiment sans argent. Donc, je devais avoir 1000 euros pour 2 mois. Ce qui, au Canada, n'est rien.
C'est cher quand même là-bas.
Ah, ouais, c'est très très cher. Donc, avec rien. Et en fait, j'ai voyagé en couchsurfing et en stop tout le temps. Enfin, j'ai fait un ou deux campings à un moment. Je suis partie avec une tente. Et j'avais des amis à Montréal. Donc, à Montréal, j'ai été hébergée. Mais le premier mois et demi, j'ai fait que du couchsurfing et du camping. Et ça a été un voyage qui m'a beaucoup, beaucoup appris sur moi. Parce que t'arrives à Vancouver avec le décalage horaire, ton sac à dos. Je parlais pas extrêmement bien anglais, je me débrouillais, mais un anglais scolaire, tu vois, enfin un niveau B2, quoi. Et tu parles, enfin, j'étais perdue, vraiment perdue. Je suis arrivée en couchsurfing... dans une super baraque avec des mecs qui jouaient du jazz. C'était trop cool. Vraiment, okay. C'était trop cool. J'y ai passé 2-3 jours. Et j'ai eu une grosse, grosse mésaventure au tout début de mon voyage, où en fait, je suis allée en stop jusqu'à Victoria. Donc Victoria, c'est sur l'île de Vancouver. Et c'est une île qui est au sud... Enfin, c'est une île qui est au large de Vancouver, qui est très grande. Et Victoria, c'est la ville qui est le plus au sud. Et donc, tu prends un ferry du sud de Vancouver à Victoria. Et j'avais un couchsurfing à Victoria. Et donc mon premier couchsurfing s'était très bien passé, donc j'étais mise en confiance. C'était la première fois que j'en faisais. Et je suis tombée sur un couchsurfer du coup canadien, un mec de 40 ans à peu près, qui physiquement présentait très bien, un mec beau, tu vois, enfin qui répond aux critères de beaucoupitude de la société. Moi qui ne me plaisais pas du tout et je me suis jamais posé la question, et qui en fait a été extrêmement tactile et malaisant pendant le temps où j'étais avec lui.
Donc même le Canada, réputé pour être un pays sûr pour les femmes, en fait, on se fait emmerder quand même, quoi.
Ouais. Bah, je me suis fait emmerder mon premier soir dans un bar. Je me suis fait emmerder très fort par un mec très drogué. Et là, et vraiment, ce couchsurfing m'a mis extrêmement en difficulté, vraiment en grosse difficulté.
C'est-à-dire ?
Alors, c'est-à-dire qu'en fait, le mec déjà est venu me récupérer en voiture juste avant le ferry, et je lui avais ramené une bouteille de whisky, je crois, parce que sur son profil, il avait mis qu'il aimait bien le whisky.
Okay.
Et c'est, tu vois, de la politesse, voilà, de couchsurfing, tu ramènes une bouteille pour remercier. En fait, déjà, il a énormément bu au volant et dans le ferry, et moi, ça me met mal à l'aise de boire beaucoup d'alcool fort quand tu vas conduire. Voilà. Et il était extrêmement tactile dans le bateau.
Directement. Genre, il vient de te rencontrer.
Ah ouais, il vient de me rencontrer et genre il me prenait par les épaules.
Un bon porcasse, quoi.
Ouais. Et moi, sur le coup, tu vois, en fait, ton cerveau ne sait pas trop si t'es en danger ou pas, parce que peut-être que juste il est comme ça, il a pas non plus fait de choses.
Oui, parce que tu venais d'arriver, à la limite, peut-être tu t'es dit, genre, c'est peut-être culturel,
voilà,
là-bas, on
exactement.
Est très tactile.
Ça faisait 3 jours que j'étais au Canada, j'étais encore crevée du décalage horaire. Je me suis dit, bah, j'ai peut-être pas les codes, et voilà, c'est juste comme ça. Et on arrive chez lui, donc on conduit. Il me pose des questions assez malaisantes sur ma vie sexuelle, sur pas mal de choses assez malaisantes. Et en fait, en anglais, c'était dur de mettre une barrière avec lui parce que en français, j'aurais su dire « Bon, stop, c'est bon, vous me mettez mal à l'aise. » En anglais, étant en anglais scolaire, je savais pas trop quoi dire. Et donc, on arrive chez lui, j'étais épuisée. L'appart était fait de telle manière qu'en fait, il avait une mezzanine et que moi, si je dormais sur le canapé, lui, il dormait au-dessus de moi. La mezzanine donnait sur le canapé.
Symboliquement, en plus.
Hein. Ouais, il me voyait. Tu vois, s'il se penchait du lit, il me voyait. Et en fait, il me force vraiment, il me met une pression pour qu'on aille boire des coups. Donc bon, moi, je veux pas non plus être mal polie, tu vois. Il m'héberge 3 nuits, j'y vais. Au restaurant, il me pose vraiment des questions extrêmement mal à l'aise, vraiment malaisantes. Du genre, malaisantes. Qui sont pas malaisantes quand tu les poses à ta pote, mais à quelqu'un que tu connais pas. Mais genre, est-ce que t'as déjà couché avec des filles? Est-ce que t'as déjà eu des plans à trois?
Déjà, entre potes, on se pose pas les questions de cette façon-là. Voilà. On y met un peu plus les formes en soi. Voilà. C'est dans la conversation, quoi.
Voilà. C'est pas comme ça face à.
De but en blanc, quoi.
Et de but en blanc. Donc, je suis un peu mal à l'aise. Je lui réponds un peu en baragouinant. En essayant d'être quand même sympathique parce que j'avais ce côté, il faut être poli. C'est mon coach surfeur. Il faut que je sois poli et il faut qu'il m'aime bien parce qu'il m'héberge 3 jours. Il ne faut pas que je sois désagréable. Et puis, je suis une nana et lui, c'est un mec. Enfin, tu vois, il y avait un côté très bizarre où je me disais, il faut que ça se passe bien.
Ouais.
Et il m'emmène boire des shots de tequila dans un bar à côté. Et il danse avec moi, mais même mes potes, je ne danse pas comme ça avec eux. Tu vois, genre vraiment très serré, très proche. Et je suis mal à l'aise et je lui dis je suis mal à l'aise, je voudrais rentrer. Et je sais pas, il a peut-être pris ça comme une invitation, mais on sort et il me met une main au cul, mais mon gars, une main au cul comme tu sais que c'est pas une erreur, tu vois.
Ouais.
Et là je me dis je peux pas laisser passer ça, sinon c'est porte ouverte. Et donc je me mets à hurler tout ce que j'ai en anglais. Je me souviens l'avoir insulté de porte de frigo. Je sais pas, j'ai sorti
meilleure
des
insulte.
Insultes. Ouais, je sais pas, j'ai sorti des insultes, je me souviens de dire « fridge door », n'importe quoi, vraiment. Et en fait, il se recule, il me fait « Ok, je suis désolée, j'ai tenté, tu me dis non, c'est non, t'inquiète pas. » Et du coup, je me dis « Bon, bah, ça a peut-être marché avec des nanas. » Et là, il voit que non. Du coup, on dort. Je dors hyper mal parce que je suis pas sereine, je suis pas à l'aise quand même. Et le matin, il me dit, donc c'était le moment où en fait l'herbe devenait légale au Canada. Et il me dit qu'en fait, il y a un magasin d'herbe en bas de chez lui et que s'il parraine quelqu'un, il a de l'herbe gratuite. Donc, est-ce que je peux m'inscrire au truc pour qu'il ait de l'herbe gratuite? Ok, on y va. Il achète son herbe, moi je souscris au truc. Il m'emmène manger un petit déj. En plus, j'avais dit que j'avais pas de thunes, il me faisait faire des restos, il m'invitait pas et ça coûtait un bras. Et moi, je voyais mon budget. Je voyais mon budget qui dégringolait et moi, j'osais pas dire non parce que je me sentais redevable qu'il m'héberge, alors que c'est pas le but du coach surfing. Il m'enferme en plus dans la voiture et je vais attendre qu'il vienne m'ouvrir pour pouvoir descendre. Et il m'emmène du coup prendre un petit déj et j'étais vraiment pas du tout physiquement dans la séduction. J'étais en pyjama, en leggings, en chaussures de rando, les cheveux sales, pas maquillée, vraiment. Et pas du tout dans une posture de séduction, vraiment pas. Et je me souviens qu'au restaurant, il me prenait en photo, il me disait « Mais qu'est-ce que t'es sexy !» Et moi, j'étais à manger mes pancakes avec du sirop d'érable qui me collait sur le menton et à faire « Oh non, je me sens vraiment pas bien. » Enfin, j'étais pas en sécurité, vraiment, ouais. Je me sentais pas en sécurité. Et on rentre chez lui. Et il était du coup, je sais pas, à 10h30, 11h. Et il roule, je le vois pas rouler. Et il me tend le joint en premier. Et il me l'a tendu, donc moi je fume pas d'herbe, parce que je réagis très mal au THC. À chaque fois que j'en ai pris, j'ai très mal réagi. Du coup, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Je picole et je peux faire d'autres trucs, ça va, mais l'herbe, vraiment, j'aime pas du tout. Et il me le tend avec un tel regard. C'était clairement, si tu fumes pas, t'es vraiment nul, tu vois. Et j'ai senti de l'injonction dans son geste et j'ai pas osé dire non. Mais alors ça, je le referai plus jamais. Mais sur le coup, j'étais impressionnée. J'ai pas osé dire non et j'ai fumé la moitié du joint seule. Et lui, après, l'a pris et n'a pas fumé dessus. Et je crois qu'il a tiré une latte. J'avais dû en tirer 15. Une latte et il l'a jetée. Et il me dit qu'on va partir faire un tour en moto. Et moi, je me dis que je peux pas passer la journée collée à lui. Enfin, tu vois, en moto, t'es derrière et t'es accroché. Ça me dégoûtait physiquement. Il me dégoûtait physiquement. Et on prend l'ascenseur. Et dans l'ascenseur, je commence à avoir plus aucune perception de l'espace. Donc l'ascenseur me tombe dessus. Et je me dis, ok, je suis en train de bader. Enfin, je commence à être droguée, à être défoncée. Je veux être en sécurité. Et du coup, je remonte. Je lui dis que j'ai oublié un truc ou je sais plus ce que je baratine. J'avais la clé de chez lui, il me l'avait laissé le double. Je remonte. je rentre chez lui et je m'enferme dans la salle de bain à clé. Et je suis rentrée vers 11h et j'en suis sortie à 18h. Et j'ai eu mais vraiment 7 heures de bad intense, mais j'ai jamais eu ça de ma vie. Donc après, quand j'en parle aux gens, les gens me disent qu'il a dû couper ça à quelque chose, enfin qu'il a dû foutre quelque chose dans l'herbe. Mais j'ai vraiment eu 7 heures de blackout total, où j'ai des petits flashs de genre je me réveille et tout est rose autour de moi. Et je crois que je t'avais déjà raconté une fois, je me souviens me réveiller. Et en fait, ces toilettes étaient un peu rondes, les portes étaient rondes et coulissantes. Et j'étais persuadée que si j'étais dans un truc rond, c'est que c'était une fusée qui allait décoller. Et je comprenais pas pourquoi j'avais pas... Je me voyais dans le miroir et je comprenais pas pourquoi j'avais pas de tenue de cosmonaute. Et du coup, j'ai tout vidé dans la salle de bain. J'ai vidé tous les shampoings, tous les dentifrices, tous les placards pour trouver ma tenue de cosmonaute. Vraiment, enfin. Et ça a duré 7 heures et je me suis réveillée au bout de 7 heures. Je transpirais, j'avais les cheveux mouillés. Enfin, je pense vraiment que j'ai été droguée à mon insu, quoi. Je me souviens qu'il a essayé de rentrer et que j'avais fermé à clé. Et qu'il n'est pas rentré.
Ouais. Excellent réflexe.
Ouais. Et c'est tout ce dont je me souviens. Et quand je suis sortie, du coup, il devait être 19h, il faisait nuit, il faisait déjà froid, c'était en septembre à Victoria, il faisait un peu froid le soir. Et je suis sortie dans un état de paranoïa extrême, mais vraiment extrême, à me dire tout le monde sait que je suis droguée, tout le monde me veut du mal, là je ne peux pas appeler ma mère parce qu'il fait nuit en France, enfin, mm-hmm. Qu'est-ce qu'elle peut faire, elle est à l'autre bout de la planète, je ne peux rien faire. Et j'ai eu un bon réflexe, qui a été d'écrire sur un groupe Facebook, genre les Québécois à Victoria ou les Français à Victoria. Et j'ai écrit, je suis là, j'ai besoin d'aide, est-ce que quelqu'un peut venir me chercher ? Et un mec qui s'appelle Charles, qui sera mon sauveur à vie, a dit, écoute, là je suis pas là mais j'arrive, je suis là à 7h du matin, je suis devant l'appart. Et donc il était 7h du soir.
Encore 12 heures à tirer quoi.
12 heures à tirer, et j'avais toutes mes affaires chez le mec. Et je suis rentrée, il était là, j'étais extrêmement mal à l'aise, il me parlait pas, enfin c'était trop bizarre, vraiment trop bizarre. Et on a regardé un film, et j'étais au bout du canapé, et au bout de un quart d'heure de film, je sens qu'il se rapproche et qu'il colle sa jambe à la mienne et qu'il pose sa main sur ma cuisse.
Le dégoût.
Ah ouais, non mais j'en pouvais plus. Et là j'étais tellement mal que je me souviens juste me dégager et me dire putain mais laisse-moi tranquille, vraiment là enfin c'est non. Et il n'a pas réinsisté et on s'est couché et c'était la pire nuit de ma vie parce qu'il est sorti, j'étais extrêmement parano, vraiment encore, je dormais mal, enfin je dormais pas d'ailleurs. Et il est descendu et je me souviens quand il descendait la mezzanine, il m'a dit c'est pour moi, là c'est pour moi. Donc mes chaussures sont là, la porte est là, je prends pas mon gros sac, j'en ai pas besoin. Donc faut que j'attrape mes chaussures, que je fonce à la porte, je le pousse et je pars en courant. Les escaliers sont là, je prends pas l'ascenseur et j'étais hyper tendue sur le canapé à me dire ok, là tu risques le viol, tu pars pars en courant. Et en fait, il allait juste aux toilettes. Il m'a pas touché, il a rien fait.
Il est dans la fusée.
Ouais, il est allé dans la fusée, exactement. Et à 7h du matin, enfin 6h45, j'avais mis mon réveil, j'ai pris mes affaires et je me suis barrée, mais furtivement, comme une voleuse. Il m'a vue quand même, il m'a demandé ce que je faisais. Et moi, j'ai dit, je m'en vais, j'ai un covoiturage, je m'en vais. Et je suis partie. Et quand je suis partie, c'était le soulagement intense. Donc il y a Charles qui a été avec moi pendant 2 jours, qui m'a beaucoup aidée, je lui ai tout raconté, c'est un Québécois adorable, il m'a vraiment franchement sauvée. Et après je suis repartie en stop, toute seule, pour continuer mon voyage quoi, et je suis allée jusqu'à Tofino, et là je me souviens sur la plage de Tofino, j'étais prise en stop par une famille géniale, le mec c'était le sosie de Brad Pitt jeune, c'était agréable. Et ils m'ont lâchée sur la plage de Tofino et je me vois face à l'océan Pacifique qui est assez sauvage, tu vois, c'était la première fois que je voyais le Pacifique comme ça. Il pleuvait un peu et je me vois me dire « Ok, là je lâche prise et je vis mon voyage à fond et ça va bien se passer. » Et j'ai eu vraiment un déclic aussi sur cette plage-là où je marchais toute seule, pieds nus sous la pluie, à me dire « C'est bon, maintenant je laisse plus rien m'arriver de négatif et je me laisse plus faire. » Tu vois, je suis pas une victime, je suis pas passive.
T'as pas laissé des choses néfastes t'arriver, c'est juste certains hommes ont un énorme problème. Et...
Ouais. Mais tu vois...
Parce que du coup, tu te sentais responsable de ça, alors qu'en fait, t'es en aucun cas responsable de ce qui t'est arrivé, quoi.
Non, c'est juste que j'aurais dû suivre mon instinct. À partir du moment où le mec dans le bateau me touchait et que ça me mettait mal à l'aise,
ouais.
J'aurais dû me barrer. Mais c'est juste que je me suis dit... Tu sais, j'avais cette limite entre la raison et le « il m'a rien fait ». Il me touche les épaules, il me touche le dos pour m'orienter dans le bateau et parce qu'il me parle, mais il m'a rien fait. Et donc, mm-hmm. Est-ce que je fabule ? Est-ce que je suis parano ? Mais en fait, ton instinct, c'est ultra précieux. Surtout quand t'es une nana et qu'on t'a appris que tu pouvais te faire emmerder à tous les coins de rue. Ton instinct, c'est ultra précieux. Et mieux vaut se barrer et aller payer une auberge de jeunesse 50 balles une nuit le temps de te remettre que de te
ça
dire...
Ça te serait peut-être revenu moins cher que tous les restos dans voilà, lesquels ils t'emmenaient.
Voilà, certainement. Certainement. D'ailleurs, quand je suis arrivée à Tofino, j'ai pris une auberge de jeunesse pour deux nuits,
ouais.
Parce que j'avais besoin de me sentir en sécurité et de me refaire... Enfin, de me sentir bien. Et je me suis dit, bah oui, bah, je claque 100 dollars, c'est pas grave. Enfin, là, c'est nécessaire.
Mm-hmm.
Et tout le reste du voyage s'est très, très bien passé. J'ai eu un mec chelou en stop, mais j'ai même pas eu peur. Je lui ai dit, vous me laissez descendre maintenant. Je veux pas rester dans cette voiture-là.
Et il l'a fait ?
Il me l'a fait. Il m'a laissé descendre okay. direct, vraiment. Et j'ai pas du tout... Et le reste de mon voyage a été génial. Mais ça m'a fait un gros déclic quant à la condition de femme.
Mm-hmm.
Où j'avais... Je m'étais jamais dit que c'était... Enfin, mes parents m'ont jamais dit être une femme... Enfin, tu vas plus en chier en étant une femme qu'en étant un homme. Mes parents m'ont vraiment élevée... Enfin, normalement, je veux dire, extrêmement positivement, en me disant que voilà, que j'étais quelqu'un de bien, que j'étais... Enfin, qui m'aimait, et je me suis jamais sentie...
plus fragile.
Plus fragile, voilà, jamais. Et là, ça m'a été un déclic de me dire, ok, bah oui, je suis une femme, et les gens peuvent me considérer comme plus fragile, plus faible, et je peux l'être. Et ça m'a aidé à faire un gros, gros chemin par rapport à ça. Parce que... et aussi de réappropriation du corps, tu vois, se faire toucher quand t'es pas d'accord... voilà, j'ai eu des emmerdes aussi, j'ai eu des agressions sexuelles plus jeunes,
mmh.
qui ont été des gros traumatismes aussi.
Bien sûr.
Et il y a tout un chemin de réappropriation du corps qui est dur à faire en fait et qui est important de faire.
Qui prend certainement des années.
Qui prend des années, je pense. Et ce moment-là, je me suis dit, ok, être une femme, ça peut me nuire, tu vois. Le fait d'être née femme peut me nuire, mais je veux pas que ça me nuise. Donc je m'empêcherai pas de voyager, je m'empêcherai pas de faire ça, c'est hors de question.
Et comment tu fais pour te protéger en voyage ?
Alors j'ai moins voyagé. Du coup, je suis revenue du Canada et après, je suis partie en Asie, mais avec ma meilleure copine. Donc, on était deux. Et l'Asie, c'est extrêmement sécure. Quand t'es une nana, enfin deux nanas blanches en Asie, il peut rien t'arriver a priori. Enfin, il peut t'arriver des choses.
Pourquoi ?
Bah, c'est des gens. Le pire qui puisse t'arriver, paraît-il. Alors, je pense qu'il arrivait des mauvaises choses à des gens, évidemment. Mais nous, en Asie, on ne s'est jamais senti en insécurité. La seule chose qui aurait pu nous arriver, c'est de se faire voler nos affaires. Parce qu'en tant que femme blanche, tu es considérée comme riche. Enfin, riche. Mm-hmm. Et t'es riche. Hein. En vrai, tu pars avec 3000 euros en Asie, tu es extrêmement riche. Parce que tu as de quoi vivre 4 mois facile avec 3000 euros. Et du coup, voilà, c'est le truc qui peut t'arriver. Mais nous, on n'a jamais été mal regardés. On n'a jamais... eu peur de parce qu'on était des femmes, on a dormi dans des dortoirs avec que des hommes, avec des locaux, il nous est jamais rien arrivé. Vraiment, on s'est pas senti en danger du tout en Asie, vraiment pas du tout. Alors qu'au Canada, oui, alors qu'en France, souvent, en Europe, souvent.
Mm-hmm.
Donc, après, voyager à deux, c'est pas voyager seul.
Ouais, j'imagine.
Et tu vois, le plus mal à l'aise qu'on ait pu avoir en Asie, c'était avec des voyageurs. Enfin, on n'a jamais été
avec
en danger.
Avec des Européens.
Des Européens. Ouais, des okay. Européens qui draguent un peu, qui sont un peu lourds. Et voilà. Mais du coup, ouais, voyager seule en tant que femme, il faut le faire, je trouve. Parce que vraiment, tu trouves beaucoup de... Pas de réponse, mais t'apprends à te connaître un petit peu.
T'as beaucoup appris à te connaître.
Ouais.
T'as plus appris à te connaître au...
Au Canada.
C'est une question stupide, hein, mais au Canada toute seule ou au Népal avec ta meilleure pote ?
Eh ben, pas du tout de la même façon en fait, parce que le Canada, c'était la première fois que je me confrontais vraiment seule et j'étais hors de ma zone de confort à 100%.
Mm-hmm.
Et j'avais peur, très très peur. Le fait d'être avec Juliette en Asie, c'était un pilier et donc c'était beaucoup plus rassurant. Et même quand on avait des galères, parce qu'on a eu des galères, ça allait parce que j'étais pas seule. Donc du coup, t'apprends pas du tout sur toi de la même manière. Et les deux sont extrêmement enrichissants et extrêmement intéressants. Dans les deux cas, t'apprends vraiment à prendre du recul sur plein de choses. Et que si tes plans marchent pas comme tu l'entends, tu voulais aller dans telle ville tel soir et il y a eu un problème, et ben c'est pas grave, t'iras le lendemain ou le surlendemain. Voilà. Le Népal, c'est une grosse claque parce que tu vois vraiment de la vraie misère. Vraiment de la vraie misère. Et tu te dis sur le coup, ok, quand je vais rentrer en Europe, je vais être différente de ce que j'étais avant. Et en fait, non, parce que très vite, tu reprends tes habitudes européennes, tu as plus de mal à lâcher prise, à prendre du recul et à convoquer ce que tu as appris en voyage. Et tu reviens un peu à...
Mais c'est peut-être aussi une façon de se protéger, non, en soi.
Ouais.
Parce que si tu essaies de garder le même état d'esprit en voyage au Népal qu'en France, avec des codes très stricts, peut-être tu vrilles, en fait.
Oui, tu vrilles.
C'est trop douloureux, je pense.
Oui, tu peux pas du tout vivre de la même façon dans tous les cas. c'est pas du tout le même climat qu'il y a sur le pays, sur les, enfin c'est pas du tout la même chose. Donc oui, tu peux pas du tout vivre de la même manière. C'est sûr. Mais c'est dur un peu de revenir.
Ah, tu m'étonnes.
De revenir. Après, on n'a pas voyagé si longtemps que ça, vu qu'on est parti que 4 mois en Asie. Mais on a rencontré des gens qui voyageaient depuis plus d'un an, et je me dis que le retour en France, ça a dû foutre une bonne claque. Soit c'est des gens, je pense, qui sont orientés beaucoup vers la permaculture ou des choses plus indépendantes et un peu en marge. Soit c'est la déprime, quoi. Enfin, c'est vraiment dur de rentrer en étant convaincu que tu peux vivre avec peu de choses et que ton bonheur, il n'est pas du tout dans le matériel, il n'est pas dans ton travail. Enfin, que tu te sens assez connecté avec toi. Et en fait, tu arrives en France et très vite, tu te redis, mais non, mais il me faut un appart,
il me faut
un taf.
Il faut que je paye mes factures.
Mes factures. Oh, cette nouvelle paire de chaussures à la mode, j'ai bien envie de l'avoir parce que ça va être du plaisir sur le coup, qui va me faire du bien, parce que tu ne trouves plus trop ton compte dans la société française. Enfin,
ouais.
C'est, ouais, le retour, il est un peu violent quand même, ouais. Mais le voyage, ça a été un gros déclic le dernier, de me dire, ok, je ne veux pas du tout subir ma vie. Et je suis rentrée en France en me disant, ok, je ne veux pas subir mon travail. Et je veux pas subir... Je choisis d'être en France, parce que j'avais envie de vivre en France. C'est un pays que j'adore, qui est hyper varié en termes de paysages, de plein de choses. C'est très varié, que je connais pas assez. Et alors, je suis pas du tout patriotique, pas du tout, au contraire. Mais je me disais que j'avais envie de connaître le pays dans lequel j'étais née et de bien connaître, en termes de, plutôt de paysages, tu vois, et pas tant de culture, mais vraiment de paysages et de reliefs, parce que c'est tellement varié que ça vaut le coup. Donc j'ai choisi de vivre en France un moment et voilà, de pas du tout être esclave d'un patron ou de...
Et puis la culture de la performance occidentale.
Très occidentale en plus. Et du coup je suis rentrée en me disant, ok, bah, de toute façon la seule chose que je sais bien faire, c'est faire des photos. C'est la chose qui me passionne le plus. Quand j'en fais, j'ai pas l'impression de travailler.
Mais c'est du travail.
Mais c'est du travail.
N'oublions jamais ça.
Ouais, mais j'ai pas l'impression, tu vois, ça c'est génial, c'est... de faire quelque chose que t'aimes tellement que t'as pas l'impression de travailler, enfin t'es pas contraint. Je me dis pas, je traîne pas les pieds quand je vais faire des photos, je traîne pas les pieds quand je dois retoucher. Et du coup, je me suis lancée en rentrant. On est rentré, il y a quand même eu 4 mois de remise à zéro. Enfin, tu rentres d'un an de voyage. J'ai vraiment eu 4 mois où j'ai beaucoup beaucoup marché dans les Pyrénées, où j'avais besoin de me, ouais, de souffler un peu et de me dire ok, qu'est-ce que je veux. Et du coup, après, avec Juliette, on a trouvé un appart à Lille. Alors bon, il y a eu toute cette histoire de Covid qui est arrivée aussi. On a pris notre appart en février et un mois plus tard, on était confinés. Mais du coup, ouais, je me suis lancée dans la photo en me disant que fallait que j'essaye à 100% que j'y arrive à 100%, enfin que je me mette corps et âme dedans. Et du coup, depuis janvier, alors j'ai eu des péripéties professionnelles à droite à gauche parce qu'au début, j'avais un mi-temps. Pour m'aider un peu, que j'ai quitté pour un autre boulot mieux payé qui s'est mal passé. Enfin, ça m'a finalement aidé à me dire que j'étais pas faite pour être salariée. Non, mais c'est vrai, c'est dur. C'est très dur, en fait, quand t'es assez sensible, je pense, et que tu veux bien faire et que tu veux... Enfin, moi, presque, j'aurais pu travailler sans être payée. J'aurais presque trouvé ça normal.
Il faut pas faire ça, Eva.
Mais non. Et du coup, je me suis dit que bon, bah, être mon propre patron, c'était cool. Gérer mon emploi du temps, j'en chiais parce que bah, la photo c'est dur, c'est dur de se démarquer par rapport à d'autres, enfin tous les photographes, les réseaux sociaux c'est un enfer, il y en a partout des photos, partout.
L'algorithme aussi n'aide pas, sur Instagram c'est très compliqué.
Oh, c'est l'enfer, ils nous mettent des gros bâtons dans les roues, des poutres dans les roues d'ailleurs. Mes petites roues, tu sais, moi je roule encore avec le vélo pour enfants avec deux petites roues.
Des poutrelles dans ton tricycle. Oh,
ouais, voilà, ils foutent des poutrelles dans mon tricycle, exactement. Et, mais bon, ça commence à aller, je commence à m'en sortir à peu près. Voilà, et j'ai espoir, et j'y crois vraiment que je vais réussir à en vivre à terme. Là, je suis pas loin, enfin pas loin. Je suis pas loin d'en vivre de manière précaire, mais de pouvoir payer mon loyer et de me nourrir.
Ouais,
ce qui est déjà vital. Et ce qui est quand même très bien grâce juste à sa passion. Mais je pense qu'à terme, il faut s'accrocher un an ou deux et qu'à terme, j'arriverai à en vivre bien.
Mais j'en suis sûre, moi j'en suis persuadée. Mais en fait, quand on préparait le déclic, tu as eu cette phrase très inspirante que j'aimerais bien que tu redises, s'il te plaît.
Ah, c'est sur le fait que je ne suis pas une success story.
C'était ça. Non, pas, c'était, non, pas que tu n'es pas encore à tes yeux l'idée type d'une success story comme on en entend plein.
Voilà, c'est ça.
C'est vrai que les discours de réussite de gens qui sont déjà tellement installés dans leur, dans leur domaine, c'est inspirant, bien sûr, et il en faut. Mais on ne devrait pas s'inspirer que de ça, parce qu'il y a un côté...
où on se compare et où on se sent peut-être pas à la hauteur. Voilà, on se sent loin. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qu'on entend, donc à la télé, émission, tout ça, de gens qui ont réussi dans leur domaine. Et alors, ça fait du bien, mais ça fait aussi un peu de... Ça peut être douloureux, parce que ouais, tu te sens très, très loin de ça. Mm-hmm. Et moi, je n'ai pas encore réussi dans mon domaine. Enfin, je ne vis pas de la photo. Je suis indépendante et c'est cool. Mais je n'ai pas réussi encore. Et j'espère que ça va marcher. Et j'y crois.
Tu n'as pas réussi par rapport à tes critères à toi, par rapport aux critères d'autres personnes
Oui, je pourrais avoir réussi avec des critères d'autres... Oui, oui, ça dépend. Moi, j'estime que je vais réussir dans la photo quand j'en vivrai à 100%. Et que je serai sereine. Et que je me dirai, toute l'année suivante, je vais m'en sortir financièrement et je vais m'en sortir au niveau de mon épanouissement parce que j'ai bien géré et que je vais pouvoir payer et mon loyer et pouvoir me permettre de boire des coups et être bien et faire ce que j'aime. Là, pour moi, j'aurais réussi. Là, j'en suis pas encore là. Et c'est bien, tu vois, de pas dire « Ouais, j'ai réussi, ça y est, faites comme moi, allez-y, croyez-y, parce que ça va marcher. » Voilà, je suis pas encore à ce stade-là de réussite totale. Mais... J'y crois.
Est-ce que tu pourrais dire un peu comment on peut aider les artistes à avoir plus de visibilité et avoir plus de... Enfin, à être un peu plus avancé dans leur idée de la réussite?
Déjà, je pense qu'il faut sincèrement s'intéresser aux choses. Donc, par exemple, Instagram, qui est un réseau social qui est primordial quand tu veux vivre soit de la photo, soit du dessin, soit de la vidéo, c'est ta vitrine. Instagram, c'est un peu ta vitrine. Moi, je lutte, je suis toujours pas sur TikTok et je pense que je n'irai pas parce que c'est déjà tellement chronophage d'être sur Instagram et Facebook que ça me suffit. Mais je pense que plutôt que de scroller de manière compulsive, ce qui nous arrive à tous, c'est de prendre un peu le temps de vraiment regarder ce que ton feed te présente. Et pour que en fait, le temps que tu passes sur Instagram soit pas chronophage mais soit intéressant, tu vois. Enfin,
d'accord.
Que tu te penches vraiment sur les œuvres qu'on te présente. Moi, quand je poste une photo, ça, c'est cool si j'ai des likes et tout ça, mais j'aime bien me dire que les gens ont regardé vraiment la photo et ont pris, je sais pas, 30 secondes, tu vois, pour vraiment la regarder et pour essayer de ressentir des choses par rapport à ça. Moi, c'est ce que je me force à faire maintenant. Pendant quand je vais dans des expos et que je suis pas trop touchée par les œuvres, je me force à les regarder 30 secondes, c'est pas long, et je ressens toujours un petit truc, tu vois, même si c'est pas grand-chose, j'arrive toujours à créer un tout petit lien entre moi et l'œuvre, et c'est extrêmement agréable de faire ça. Et donc, pour soutenir des artistes, hein, on est plein à essayer de lutter contre l'algorithme d'Instagram qui est vraiment
catastrophe.
Ouais, qui est vraiment une catastrophe. Et alors juste liker, commenter, partager, c'est un énorme soutien. Énorme, parce que ça fait que... Enfin, Instagram se dit, ok, vu qu'on like son post, c'est qu'il est bien, donc on va le rendre plus visible à d'autres.
Bien sûr.
Et ça donne
un cercle
plus de...
vertueux.
Ouais, exactement. Et ça donne plus de visibilité. Donc ça, c'est hyper important. C'est gratuit en plus. Enfin, liker une photo, ça te prend littéralement une demi-seconde. Commenter un peu plus, partager un peu plus. Au moins une seconde, voilà. Juste mettre un petit cœur, tu vois, ça augmente la visibilité. Donc ça, vraiment, dès que vous avez quelque chose que vous aimez sur Instagram et qui vous touche, commenter. Vraiment, c'est une aide précieuse, vraiment précieuse. Moi, je trouve beaucoup, beaucoup de mes contrats par Instagram. Et quand Instagram me coupe l'herbe sous le pied en me donnant zéro visibilité, ce qui arrive souvent, c'est très, très dur. Et ne pas hésiter, du coup. Moi, j'ai posé il n'y a pas longtemps avec mon copain pour une photographe parce que j'avais envie de voir ce que c'était que d'être modèle. Et c'était une expérience géniale où vraiment, je me suis sentie bien dans mon corps. J'étais heureuse de voir les photos et ça m'a fait un bien fou au moral. Donc voilà, n'hésitez pas à poser, à pas acheter le dernier iPhone, mais à poser pour une séance photo, à mettre votre argent dans des choses comme ça aussi, parce que ça fait du bien et c'est important, et ça soutient énormément les photographes, les artistes, voilà. Et liker les posts sur Instagram, vraiment ça aide. Non mais vraiment ça aide. Hein,
tu m'étonnes. Merci beaucoup Eva.
De rien.
C'était trop bien. Voilà. En tout cas, je suis ravie parce que j'ai un peu dû insister pour te faire venir à notre micro.
Eh ben non, mais en tout cas, soyez contents et si vous suivez pas le même chemin que tout le monde, c'est bien. Mais c'est bien si vous suivez le même chemin aussi. Enfin, suivez votre chemin, quoi.
Ouais, c'est ça.
En fait,
ouais.
C'est ça. Et
faites-vous confiance.
Faites-vous confiance.
Suivez votre instinct aussi.
Et ouais, grave, suivez votre instinct. Putain, grave. Absolument.
Excellente conclusion.
Oui.
Merci d'avoir écouté le déclic d'Eva Cajun. Pour retrouver son travail ou pour prendre rendez-vous avec elle pour un shooting, vous pouvez vous diriger vers la description de cet épisode. On y a mis le lien vers son site et ses comptes Instagram. N'hésitez pas à aller découvrir nos autres formats, la chanson ou l'apéro, à vous abonner sur votre application d'écoute préférée et à nous mettre 5 étoiles et un commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la chanson et dans 2 semaines pour un tout nouveau format qu'on a vraiment hâte de vous faire découvrir. À bientôt!
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.